Sure. Because I love music. It's in my head. I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George. I might leave out number letter F, you know? I might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Eh bien, cette fois, ça y est, nous y sommes. On va commencer donc cette intégrale Miles Davis, qui a tout simplement pour titre intégrale Miles Davis. Évidemment, Miles Davis, on doit commencer tout à fait au début. Alors, qui était Miles Davis ? Miles Davis avait pour nom entier Miles W. Davis 3. Ce numéro 3 signifiait donc qu'il y avait donc un numéro 2 et un numéro 1. Le numéro 1, c'était un brave monsieur, un grand-père, brave monsieur si l'on peut, puisque lui, il avait donc ce grand-père-là, le grand-père de Miles, avait donc bénéficié de l'émancipation des Noirs pour aller travailler dans les plantations des Blancs. Là-bas, il va exercer la profession de comptable, eh oui, et il va être le seul à savoir tenir une double comptabilité, c'est-à-dire déjà dans la magouille, ce qui fait que génétiquement, bon, Miles ne pouvait être qu'en avance sur 100 ans. Eh bien, le grand-père de Miles va donc être obligé, à un moment même, par rapport à cette fonction qu'il avait occupée dans l'Arkansas, d'avoir un garde du corps. C'est pour vous dire un peu dans quelle situation ça commençait déjà. Il aura donc plusieurs enfants, et notamment, bien évidemment, le père de Miles, donc Miles II, qu'on appellera Doc Davis, parce que grâce à l'argent qu'avait pu lui laisser et les terres et l'argent du grand-père, eh bien, il va pouvoir suivre des études. Il va donc suivre des études dans différentes écoles et facultés, et il va décrocher un titre de dentiste, ce qui donc situe déjà la famille dans une bourgeoisie non pas extrêmement riche, mais quand même particulière, parce que docteur, dentiste, ce n'était pas donné à tout le monde. Malgré tout, il continuera, lui, à souhaiter avoir un rapprochement avec la terre. Il acquérera une ferme plus tard dans l'Illinois, où il élèvera des porcs. Mais enfin, tout ça, ce sera un peu anecdotique. Et puis, bien évidemment, Miles Davis, il devait donc avoir une mère. Cette mère, elle aura pour nom de jeune fille, donc Cléota Henry. Elle est la fille unique de Léon et Hattie Henry. Et par conséquent, tous deux vont se marier dès que, effectivement, le Doc Davis aura donc acquis donc, suffisamment de bouteilles pour pouvoir exercer la profession de dentiste. Alors au début, il avait prévu d'aller à Belleville. Mais Belleville n'avait pas besoin d'un dentiste noir. C'est pourquoi il va aller à Alton. Et c'est là, à Alton, que va naître donc Miles W. Davis III, le 26 mai 1926. Alors, fidèle à notre tradition d'un jour de jazz, eh bien, évidemment, le jour de naissance de Miles Davis, il n'est pas né avec une trompette dans la bouche. On va donc se resituer un peu dans l'esprit du moment. Et le 26 mai 1926, eh bien, Fletcher Henderson, non pas à la tête d'un big band, mais simplement comme pianiste, va accompagner Clara Smith pour le thème « Salty Dog ».
You saw
Salty Dog, donc, par Clara Smith et Fletcher Anderson, du 26 mai 1926, date de la naissance de Miles Davis. Alors, Miles avait une sœur aînée, Dorothy May, qui elle était née à Alton en 2 ans auparavant, en 1924. Il aura également un frère plus jeune, Vernon, et qui lui naîtra donc un an après la naissance de Miles. Alors, le docteur Davis, le papa, donc, évidemment, se rend compte qu'il va bien falloir arriver à gagner sa vie. Et c'est pourquoi il va poursuivre ses études. Et il va en arriver pratiquement à devenir à la fois dentiste, mais également chirurgien. Donc, à l'époque, on disait chirurgien à la fois buccal et dental. Donc, il va s'installer, il va se déplacer. Parce qu'Alton, c'est une toute petite ville. Et bien évidemment, on a déjà un dentiste. Par conséquent, il se met en quête d'une ville un peu plus grande. Et ils vont donc aller s'installer cette fois-ci à East St. Louis. Une ville donc qui, elle, est beaucoup plus de passage, beaucoup plus riche. Et donc, ils vont s'installer là-bas. Et ils vont s'installer donc dans 3 salles derrière le cabinet dentaire, au 2e étage d'un immeuble en briques, tout simplement parce que c'est quand même pas la fortune. Et puis, il faut dire qu'à cette époque-là, eh bien, Madame Davis, elle, n'a qu'un souhait. C'est d'une part favoriser l'éducation de ses enfants, mais également soutenir le mieux qu'elle peut son mari, raison pour laquelle on peut dire qu'elle fera un peu partie des dames patronesses. Alors, c'est aussi l'occasion pour Miles, bien qu'à cette époque-là, il ne soit pas encore en âge d'apprécier le jazz, de déjà être en écoute quand même de jazz, puisque sa mère achète des disques et elle est vraiment fervente de, évidemment, vous en doutez, le musicien de l'époque, c'est bien sûr Louis Armstrong, Louis Armstrong Comeback. Thank you. Louis Armstrong, Comeback. On a l'impression que ça ne finira jamais, et pourtant c'était bien. Donc, Mr. Armstrong. Alors, la famille Davis a quand même un peu une apparence très bourgeoise. En effet, le père, Doc Davis, donc, souhaite absolument conserver ce standing, raison pour laquelle ils auront à la fois une cuisinière et une gouvernante, ce qui chez les Noirs n'est pas vraiment toujours courant. Et puis, malgré tout, eh bien, ils vont, si je puis dire, faire partie de la bourgeoisie de East St. Louis. Ils vont s'habiller à la mode. Le père de Miles est toujours en costume avec un gilet et aussi cravate. Et puis, la Madame Davis, elle a toujours des fourrures et des chapeaux qu'elle a fabriqués. Les enfants étaient tout aussi à la mode. Miles se souvient des vêtements que son père a achetés quand il a commencé à porter des pantalons longs, des bottes Tom McCann, une chemise à rayures jaune, une cravate, une veste gris à double bouton, un capuchon et un sac à main en cuir. Voilà comment le jeune Miles va être équipé pour aller donc partir à l'aventure de cette nouvelle vie. Alors, la mère de Miles Davis voudrait que ses enfants, effectivement, suivent des études pour, vous en doutez, devenir dentiste. Sauf peut-être pour la fille, Dorothy, dont elle espère qu'elle elle va devenir enseignante. Et pour qu'elle puisse parfaire ce rôle d'enseignante, dès qu'elle sera en âge donc de pouvoir le faire, elle va suivre des cours de piano. C'est la raison pour laquelle, évidemment, Madame Davis, le soir, à la radio, se permet de mettre assez fort la radio pour que tout le monde puisse écouter l'autre vedette de l'époque. C'est bien sûr Arte Tum, Arte Tum, Get Happy. Voilà donc ce qu'écoutait Miles les premières années de sa vie, donc Louis Armstrong ou Arte Tum avec ce Get Happy. Alors effectivement, ils sont installés à East St. Louis. Je vous l'ai dit, c'est quand même pas la richesse, mais apparemment tout va bien. Les parents font partie de différentes associations, ils amènent les enfants au concert, ils font partie de la petite bourgeoisie et par conséquent tout se passe pour le mieux à East St. Louis, sauf pour Miles Davis, qui gardera de cette époque-là un très très mauvais souvenir. Alors, eh bien, il va tout simplement dire À part cela, le fait que je sois né là-bas, je ne peux pas dire que j'ai gardé un très bon souvenir de cette ville dite Saint-Louis. En effet, on était un peu désœuvrés et je passais mon temps à aller voir passer les bateaux qui arrivaient sur le Mississippi, qui débarquaient évidemment des musiciens. Et ça, pour lui, c'était quand même ce qui déjà commençait à être le plus intéressant. Dès qu'il va commencer à pouvoir gambader tout seul, il va trouver que ses parents ne le laissent pas assez libre parce que, bien évidemment, vous vous en doutez qu'à East Saint-Louis, il n'y avait pas que des endroits bien famés et par conséquent, les parents surveillaient de près l'éducation des enfants. Et East Saint-Louis ne laissera pas de traces dans le jazz d'une manière conséquente, si ce n'est malgré tout que ce sera le titre d'une composition de Duke Ellington, East Saint-Louis Toodle, où il faut dire que dans ce morceau-là, eh bien, le trompettiste n'est autre que Louis Metcalf, qui était donc trompettiste, évidemment, à Saint-Louis. Duke Ellington, East Saint-Louis, Oodle, Toodle, ou. C'est donc ainsi que Miles va se faire un peu une première éducation, on va dire, un apprentissage tout au moins des oreilles auprès du jazz. Alors il faut dire qu'il a la chance quand même, c'est le plus pur des hasards, qu'en face de l'immeuble où ils habitent, eh bien, il y a un tout petit club de jazz. Il a pour nom le Peppermint Lounge. Et bien évidemment, Miles se met à la fenêtre. Et il peut donc écouter des musiciens locaux. Ça lui permet de se familiariser un peu avec cette musique qu'il entend parfois venir du Mississippi lorsqu'il va se balader sur les berges. Mais il est quand même très attentif à tout cela. Et il a un musicien qu'il aime bien écouter parce qu'il passe souvent dans ce club, le Peppermint. C'est Lloyd Scott Orchestra avec un titre, déjà qui va le rapprocher de New York, Harlem. Floyd Scott Orchestra Harlem. Alors on va quand même passer rapidement un peu sur la toute première enfance de Miles Davis. On va attendre qu'il ait 10 ans parce qu'à cet âge-là, eh bien, il va se découvrir en allant se balader un peu dans tous les quartiers, pas forcément dans les meilleurs comme Good Hills. Et là, il va se rendre compte eh bien, que les enfants de son âge commencent à avoir un peu d'argent sur eux et lui n'en a pas. Alors il va donc aller voir son père et dire « Papa, moi je voudrais bien pouvoir faire comme tout le monde, m'acheter des bonbons et ceci et cela, mais j'ai pas d'argent. » Et son père lui dit tout simplement « Écoute, la meilleure façon d'avoir de l'argent, c'est de travailler. » C'est la raison pour laquelle Miles, alors qu'il n'a que 10 ans, eh bien, va aller distribuer des journaux dans les boîtes aux lettres. Ce sera donc la distribution du Chicago Defender, qui sera d'ailleurs le premier journal noir américain. Ainsi, il va pouvoir avoir un tout petit peu d'argent. Il va en profiter pour s'acheter des bonbons. Mais il va aussi, à partir de là, commencer à s'intéresser à la musique de beaucoup plus près. Le père donc a souhaité que les trois enfants suivent des cours artistiques, on va dire. Les premiers seront des cours de dessin, mais Miles, ce n'est pas ce qui l'intéresse, lui, c'est vraiment la musique. Alors, il va prendre des cours, et avec sa sœur, Dorothy, elle fera plutôt des études dans le domaine, on va dire, plutôt de la psychologie, dirons-nous. Quant à lui, non, il va déjà vraiment s'intéresser à la musique. Et au bout d'un certain temps, eh bien, il arrive à lire la musique. Évidemment, il ne joue pas d'instrument pour l'instant, mais il arrive tout de même à déchiffrer les partitions d'un musicien qui s'appelle Augie Carmichael et qui a créé Stardust. Alors Stardust, ça vous dit quelque chose, mais Augie Carmichael, il faut quand même savoir, c'était un étudiant blanc, et c'est lui, oui, c'est pas Ray Charles, c'est lui qui a créé donc, le Georgia on My Mind. Par conséquent, première confrontation de Miles avec la musique écrite, avec le thème Stardust. Thank you. Oui, c'était donc Stardust par le créateur Augie Carmichael. Alors, Miles Davis, évidemment, s'il suit des cours de dessin, on ne peut pas dire que ça le passionne vraiment. Il est plutôt passionné, lui parle de sport, parce que juste en face et derrière la maison, il y a un terrain de baseball. Donc, il va s'intéresser au baseball et il va aller jouer là-bas avec ses petits camarades. Alors, il faut dire qu'à l'époque, Miles est un enfant assez chétif, timide, silencieux, très introverti, dirons-nous. C'est la raison pour laquelle il va pas vraiment percer dans le baseball. D'autant que, on verra ça plus tard, eh bien son prof lui demandera de ne plus aller jouer au baseball. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il faut protéger les lèvres pour jouer de la trompette. Et on ne sait jamais, un accident est si vite arrivé. Miles donc commence à s'intéresser donc au jazz. Et il a découvert une émission de jazz qui se passe très tôt le matin, à 8h, à 8h à la radio, c'est Harlem Sérénade. Tous les matins, il va s'arranger pour se lever suffisamment de bonne heure pour écouter la radio et surtout pour éviter d'arriver trop en retard à l'école à 9h. C'est là qu'il va découvrir des musiciens qu'il ne connaissait pas, tels Wingy Manon, Cat's Head. Donc, Wingy Manon, Cat's Head, donc, on peut dire extrait d'une émission d'Harlem Sérénade. Alors, avec le peu d'argent qu'il a, eh bien, Miles commence vraiment à s'intéresser à la musique et il se dit que pour pouvoir faire tout cela, eh bien, il va quand même falloir qu'il fasse sa propre expérience. Il va se diriger donc chez les marchands de partitions. Il va commencer à s'intéresser vraiment à la musique après les cours, à tel point que parfois, les après-midi, eh bien, il reste dans sa chambre et il bosse sur des partitions auxquelles il n'arrive pas toujours à accéder parce que trop difficile, mais il se souvient qu'il avait donc acquis des phonogrammes, et notamment celui de Jay McShann, Hootie Blues. Alors, est-ce que c'est là qu'il a, vous le savez sans doute, Charlie Parker était déjà dans l'orchestre de Jay McShann, mais je ne pense pas que Miles ait encore prêté l'oreille au jeu de Charlie Parker. Toujours est-il qu'il va donc se payer ce Jay McShann Hootie Blues.
She lives two flights up, and she sends me with a smile. Well, she calls me her lover, well, and a beggar too. Yeah, she calls me her lover, well, and a beggar too. Ain't you sorry, little girl, that my new little girl ain't you?
Jay McShann, Hootie Blues. Je vous rappelle que vous écoutez donc l'émission intégrale Miles Davis. Et évidemment, on est dans les premières années de Miles Davis, des années d'apprentissage. Par conséquent, il n'a encore que 12 ans et il n'a pas encore vraiment acquis suffisamment d'expérience pour aller jouer. Mais cela ne saurait tarder. Rassurez-vous, bientôt nous l'entendrons. Je pense que ce sera plutôt pour demain. On va donc essayer de poursuivre un peu cette adolescence de Miles. Alors évidemment, avec Jay McShann, il découvre le blues qu'il a déjà entendu en allant se promener sur les berges du Mississippi avec les musiciens qui arrivaient. Mais il est attiré par une toute autre musique qui déjà lui plaît davantage parce qu'il trouve que c'est un peu trop dans l'esprit du moment. Tout le monde joue ainsi. Et il va découvrir un saxophoniste donc, dont il va acquérir un album. C'est Coleman Hawkins avec notamment ce thème « Wood in You ».
Thank you.
Donc, Coleman Hawkins avec ce Wood in You. Il faut dire que pour ses 13 ans va survenir un événement. D'abord, cette passion pour la musique va créer des dissensions au sein de la famille, le Miles Davis. Le père et la mère ne cessent de se disputer parce que, selon l'histoire, eh bien, Madame Davis ne souhaitait pas que ses enfants poursuivent des études musicales et tant bien que mal, elle aurait accepté si Miles avait joué du violon parce qu'elle l'avait pratiqué dans son jeune âge. Mais non, lui, c'était la trompette qui l'intéressait. Et puis, l'oncle de Miles Davis, donc Ferdinand, était un homme de culture dure. Et donc, il va lui s'intéresser à Miles, il va lui apporter des conseils et il va surtout faire en sorte, comme dira Miles, que je ne sois pas un imbécile. C'est pourquoi, grâce à tout cela, mais c'est surtout, je crois aussi, et je suis pratiquement sûr, c'est que le docteur Davis, le papa, il avait quelques défauts. Il était joueur, il avait perdu, je crois, pratiquement, selon ce qu'on pouvait dire, plus de 30 000 dollars. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représentait. Et puis surtout, c'était un homme à femme. Et il y avait eu une aventure. Il s'était fait choper le bougre en train de faire quelques caresses intimes, non pas aux dents, mais au derrière d'une de ses patientes. Et tout cela fait que la famille Davis va se séparer. Et puis donc, Miles, ne sachant trop pourquoi, eh bien, il va, pour ses 13 ans, recevoir le cadeau qu'il n'espérait pas. Le docteur Davis était ami avec un autre docteur, le docteur Eubanks, et celui-ci va offrir à Miles non pas une trompette, mais un cornet, parce qu'il estimait que Miles avait les bras trop courts pour jouer de la trompette. Et là, ça va être la révélation pour Miles, parce qu'il a enfin un instrument. Il va prendre des cours, il va faire en sorte que eh bien, ça devienne un peu sa profession de foi, cet instrument de musique. Et c'est à partir de là que Miles va commencer, on peut dire, sa carrière. Alors, pour pouvoir parvenir à cela, le docteur Davis a des relations, évidemment, de par sa profession. Et il va donc demander à un de ses patients, O'Shea Buchanan, de bien vouloir donner des cours à Miles. O'Shea Buchanan, c'est un musicien trompettiste qui a longtemps officié sur les bateaux, sur le Mississippi. Mais il avait aussi la particularité d'aller dans les écoles pour découvrir des jeunes musiciens qui auraient été intéressés avec un tant soit peu de talent. Et bien sûr, il va repérer Miles et il va donc devenir son professeur. Il va donc lui apprendre à jouer, lui expliquer un peu la position des lèvres sur l'embouchure. Et comme je vous l'ai dit, c'est lui qui fera en sorte que Miles puisse se désintéresser du baseball de manière à ce qu'il ne puisse avoir de mal à ses lèvres. Et par conséquent, à partir de là, Miles va devenir un passionné de musique. Et c'est ainsi. Donc, il va lui demander de s'intéresser à un musicien qui est Bobby Hackett. Bobby Hackett, c'est un trompettiste de renom. Et Miles va commencer à écouter ce musicien parce qu'il trouve qu'il a une sonorité qui lui convient parfaitement, parce qu'il a des phrases un peu longues, une sonorité très douce. Et c'est ainsi qu'il va découvrir Bobby Hackett avec ce Sunrise Serenade. Thank you. Donc, après avoir suivi les cours donc, de Buchanan, celui-ci va faire en sorte que Miles peaufine tout son jeu et il va surtout lui apprendre comment poser ses lèvres sur l'embouchure. Il va lui apprendre la respiration, il va lui apprendre l'utilisation de la langue et du doigté et également quelque chose que Miles ne pouvait pas trop accepter, la maîtrise de soi et la discipline. Mais Miles suit ses cours avec attention parce qu'il est vraiment attiré par cette sonorité de Bobby Hackett. Et puis il est allé quand même un peu plus loin parce qu'à Saint-Louis, il y a un orchestre symphonique et il y a dans cet orchestre symphonique un musicien qui, lui, séduit vraiment Miles par son jeu. C'est le premier trompette, Joseph Gusta. Miles va donc décider d'aller prendre des cours auprès de ce musicien pour parfaire encore sa sonorité. Et il faut dire qu'il est aidé en cela par une dame qui a pour nom Marilou Williams. C'est la pianiste que vous connaissez. Marilou Williams, on va l'écouter dans ce thème « Baby Dear ». Marilou Williams avec Baby Dear. Alors Marilou Williams, elle est l'épouse de notre trompettiste que Gustave a absolument conseillé à Miles Davis. Il lui dit, il faut vraiment que tu écoutes ce musicien parce que Gustave, ce n'est pas le genre de professeur qui rigole. Il considère que si les élèves saignent des lèvres, eh bien ça fait partie de l'enseignement. Par conséquent, c'est ainsi, c'est un musicien classique. Et Miles va commencer à s'intéresser à jouer un peu comme lui parce qu'il est stupéfait de constater eh bien que Custa, lui, peut jouer dans différents octaves avec des notes très longues. Et il va surtout admirer la technique donc, de Shorty Baker, Harold Shorty Baker, donc, qui est donc, le mari de Marilou Williams, parce qu'il dira plus tard que cette sonorité, c'est celle qu'il voulait obtenir sans vibrato. Et c'est aussi ce qui va le rapprocher un peu de la sonorité d'un musicien blanc le plus noir de l'époque, Bix Beiderbecke. Harold Baker, Saint-Germain-des-Prés Blues. Harold Shorty Baker, Saint-Germain-des-Prés Blues. Et Miles déclarera plus tard, j'aurais aimé pouvoir jouer comme Harold Baker avec cette sonorité si fluide, si douce, parce que pour les ballades, je crois que personne ne l'a jamais égalé. Sauf peut-être un musicien dont on parlera peu, mais qui marquera également la carrière de Miles Davis, c'est Freddie Webster, le frère de Ben Webster. Eh bien voilà, donc on va en arriver à la fin de l'émission. Il faut dire qu'à cette époque-ci, à l'époque de Miles donc, eh bien les deux musiciens trompettistes qui évidemment dominent de la tête et des épaules tous ces musiciens, c'est évidemment Louis Armstrong, mais aussi un autre musicien que Miles va écouter, mais vraiment d'une manière discrète, sans y prêter vraiment attention, c'est Roy Eldridge. On va donc terminer l'émission avec Roy Eldridge et ce Arcadian Shuffle. I'm